tout de suite sur MDM. Les Landes, c'est ma nature. L'environnement dans notre région. Avec Jeanne-Marie et Marie-Claire. Les Landes, c'est ma nature.
Bonjour aux auditeurs de Radio MDM. Aujourd'hui, les Landes, c'est ma nature est parti à Alcatorda, c'est-à-dire le centre de soins de la faune sauvage à Puy-de-Sault, où donc nous avons interviewé Laura Labarthe, qui est donc la référente du centre. Donc Laura, tout d'abord, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la responsable de ce centre. Alors expliquez-nous un petit peu d'abord ce que veut dire Alcatorda et ensuite dites-nous ce qu'est ce centre de la gestion de la faune sauvage.
Alors, Alcatorda, du coup, c'est le nom scientifique du pingouin torda. Donc, l'origine de la structure date de 2005, à sa création à la suite des marées noires de l'Erika et du Prestige. Donc, c'était la Fédération des chasseurs des Landes qui du coup, a sollicité justement leur site, à Puy-de-Sault, donc l'ancien musée de la chasse et le parc d'élevage de Fezan, pour accueillir, pendant les marées noires, un centre de soins temporaire. Et à la suite de ces marées noires et de ces résultats qui ont été très bons, la Fédération des chasseurs des Landes a décidé de pérenniser une structure de soins pour la faune sauvage, donc vraiment pour accueillir toutes les espèces sur leur site de Puy-de-Sault, donc sur le musée de la chasse. Donc en 2005, le centre a été créé à sa suite là.
Très bien. Alors, existe-t-il d'autres centres identiques sur la région Aquitaine ?
Oui, il existe du coup en tout sur la Nouvelle-Aquitaine. Maintenant, il me semble qu'on est 9. Mais nous, par rapport à nos voisins, on va dire, donc il y a un centre de soins dans le Pays Basque, il y a un centre de soins en Gironde, à côté du bassin d'Arcachon, et il y a un centre de soins à Tonneins, dans le Lot-et-Garonne. Donc voilà, donc on est quand même entouré. Il n'y a que le Gers qui n'est pas desservi et qui du coup est notre secteur d'action aussi.
Vous avez une spécificité dans ce centre ?
Alors le centre, comme il a été créé à la suite des marées noires, il a une grosse spécificité au niveau oiseaux marins, c'est-à-dire qu'on a une grosse structure d'accueil, on peut accueillir une grosse affluence d'oiseaux marins. Après, on n'a pas de spécificité au niveau des espèces. Au niveau des accueils, on est directement, donc on prend tous les oiseaux métropolitains, donc là c'est vraiment très large. Ça va du tout petit passereau au très très grand vautour, à l'oiseau marin, en passant par les châssis, etc. Au niveau mammifères, on est par contre réduit. Au niveau des autorisations, on prend que les mammifères de moins de 6 kg. Donc au niveau espèces, les plus classiques qu'on reçoit, c'est l'écureuil et les hérissons. Mais en taille maximum, on peut aller jusqu'à la genette, par exemple. Et après, on prend en charge aussi les tortues. Donc là, c'est très épisodique. Il n'y en a vraiment que quelques-unes. Donc c'est principalement les tortues aquatiques, donc la cistude, espèce protégée, et la tortue d'Arman.
Alors, vous êtes la référente salariée. Mais après, le centre fonctionne aussi avec de nombreux bénévoles. Est-ce que vous pouvez expliquer quel est le travail des bénévoles, comment ça se répartit, selon les endroits, s'ils sont par exemple au centre ou s'ils sont au contraire dans tout le département ?
Alors effectivement, on a ce qu'on appelle deux types de bénévolat, même s'il y en a qui sont très motivés et font les deux, et on leur remercie d'ailleurs énormément. On a à peu près une centaine de bénévoles sur la structure, et heureusement d'ailleurs, elle fonctionne grâce à ça. On a donc les bénévoles qui viennent nous aider quotidiennement dans les soins sur la structure, donc généralement c'est plutôt des personnes qui sont présentes aux alentours de Puy-de-Sault. Là, ça va plutôt être souvent sur les matinées, où c'est que nous, on va vraiment faire les soins, donc le nettoyage des cages, l'alimentation, les soins médicaux, menteux, etc. Donc là, ils vont nous aider sur toutes ces parties-là. On ne demande pas de connaissances ou quoi que ce soit. Hein. Vraiment, on prend absolument tout le monde et du coup, on forme les bénévoles au jour le jour sur ce genre de tâches. Et après, on a les bénévoles qu'on appelle, nous, rapatrieurs. Donc, ils vont être, par contre, dispatchés sur vraiment tout notre secteur d'action. Donc, tout le département des Landes et une partie du Gers. Et donc là, ça va être des bénévoles qui vont être susceptibles justement de faire le transport des animaux. Parce que malheureusement, on est appelé sur tous ces départements-là, donc les deux généralement, et un petit peu le sud de la Gironde aussi. Et donc du coup, on va appeler les bénévoles concernés en fonction de là où se trouve l'animal pour qu'ils puissent nous le ramener le plus rapidement possible. Donc on essaye d'avoir un maximum de personnes de disponibles pour faire des points relais, pour éviter qu'une personne fasse une heure et demie de route par exemple. Donc plus on est nombreux, mieux c'est, et plus l'animal a de chances de survie puisqu'il sera récupéré plus rapidement.
Alors voyons, ces points relais, ce sont donc d'autres bénévoles ou bien est-ce que ce sont par exemple des centres vétérinaires ?
Alors oui, effectivement, du coup, voilà, les points relais, on va utiliser les cliniques vétérinaires donc, avec qui on a des partenariats aussi, qui du coup vont pouvoir mettre les animaux au chaud, etc., faire des prédiagnostics, vérifier voilà, si tout va bien. Et du coup, effectivement, après, c'est les bénévoles qui continuent en fait, le relais donc, pour essayer de récupérer l'animal le plus rapidement possible. Globalement, voilà, on a à peu près 4-5 secteurs où on a des grosses affluences, où on essaye de rassembler un maximum d'animaux généralement. C'est souvent sur des grosses villes, donc c'est là où on a besoin de monde. Si jamais ça va être Dax, ça va être Tartas, ça va être à Sabre, à Air, aux alentours d'Achetmo aussi. Voilà, donc ça va être des villes généralement assez ciblées où c'est que du coup on essaye de ramener les animaux qui sont un peu éloignés sur ces villes-là pour après les rapatrier justement vers Mont-de-Marsan par le réseau de bénévoles.
Alors, cela demande quand même, pour les bénévoles y compris, peut-être un équipement particulier, par exemple dans leur voiture.
Alors, il n'y a pas forcément d'équipement particulier, puisque dans tous les cas, quand on demande aux bénévoles de rapatrier des animaux, on fait toujours en sorte que l'animal soit déjà attrapé, donc sécurisé, dans un carton, dans le noir, avec ce qu'il faut, donc s'il faut le réchauffer avec une bouillotte, etc. Donc, c'est vraiment exclusivement du transport. Voilà, c'est ambulancier animaux, hein, clairement. Donc, il n'y a pas vraiment de spécificité à avoir pour nous aider dans cette mission.
Et sur le centre même, vous avez donc à peu près combien de bénévoles qui s'occupent des animaux, que ce soit au niveau de l'arrivage ou que ce soit au niveau des soins ?
Alors, sur la structure, comme je l'ai dit tout à l'heure, en globalité, si je compte tout le réseau bénévole, on doit à peu près être une centaine de bénévoles, mais qui viennent nous aider sur les soins à proprement dit, sur la structure, on doit être aux alentours de entre 20 et 30. Donc voilà, ça dépend de la saison aussi. Hein. Voilà, il y a des personnes qui viennent à certaines saisons particulières. Il y en a qui sont très réguliers, qui viennent chaque semaine. Donc voilà, donc en fait, ça dépend des disponibilités, mais en globalité, si je compte tout le monde, on doit être à peu près à 20-30 personnes.
Donc, allez, expliquez. Un bénévole arrive, il a envie effectivement de vous aider. Que se passe-t-il ?
Alors, que se passe-t-il ? S'il veut nous aider du coup sur la structure, donc généralement la démarche, on va dire, administrative qu'on fait un petit peu avant, donc on essaye de prendre les coordonnées, nous on envoie justement le règlement intérieur, etc. Donc ça permet vraiment de prendre connaissance un peu de tout ce qu'on va faire, puisque voilà, ça reste un centre de soins de la faune sauvage, il faut que les personnes soient au courant quand même que ça reste des animaux sauvages, que le but ce n'est pas d'entrer en contact avec eux. Donc voilà, il y a pas mal de directives à prendre connaissance aussi. Malheureusement, les animaux arrivent dans des états catastrophiques aussi, et donc malheureusement on peut être confronté aussi à des animaux qui meurent pendant les soins, donc voilà, donc on préfère avertir un peu tout le monde là-dessus, donc voilà, donc on essaye de débriefer déjà avant de faire venir la personne sur la structure. Une fois que la personne a pris connaissance de tout ça et vraiment ok pour venir, on fait ce qu'on appelle une matinée d'essai. Voilà, donc la personne nous suit dans les soins, donc elle est formée directement par moi ou par l'autre salarié, vraiment sur l'hygiène qu'on a sur la structure, sur le fonctionnement. Donc là, on n'entre pas dans les soins, dans la manipulation dès le premier jour, mais on observe dans tous les cas, hein, ils sont avec nous, donc ils voient comment ça se passe. Donc on forme sur les premières bases, sur l'hygiène, etc. Et si ça convient du coup aux bénévoles, après bah, du coup on cale des dates, donc la personne nous avertit quand elle veut venir. Là, il n'y a pas de disposition particulière, c'est quand ils veulent. Généralement le matin, puisque c'est plus intéressant pour eux, puisque c'est là où sont effectués les soins. Mais après, ils sont formés tout au long de leur venue, du coup, à certaines manipulations, à certains gavages, à certains nourrissages. Donc voilà, à certaines méthodes qu'on peut déléguer après formation.
Mmh. Alors, donc, avant de lancer l'interview, nous avons fait ensemble le tour de cette structure et il y a un certain nombre d'espaces qui sont tous dédiés à une tâche bien particulière. Hein. Donc d'abord, il y a le pôle, je dirais, arrivage-accueil des animaux.
Oui, suis ensuite où le cursus, effectivement, c'est vrai que la structure n'est pas ouverte au public et donc les personnes ont beaucoup de mal à se rendre compte de la structure qu'il s'agit, mais c'est vraiment, si on doit imaginer ça, c'est vraiment comme un hôpital. Voilà, on a une infirmerie, donc c'est la salle d'accueil où c'est que les animaux vont arriver, on va faire tout le diagnostic, tous les soins. On a à côté une salle du coup de chirurgie laboratoire, on a ensuite après toutes les salles de soins, donc on en a deux spécifiques. On a une nurserie pour les petits, pour les jeunes, on a une salle de quarantaine, on a toute la salle de préparation alimentaire avec un poste de lavage, et ensuite on a aussi toutes les salles qui sont dédiées aux oiseaux marins, donc avec la salle de lavage en cas de crise maritime, et salle de séchage, du coup pareil, avec le cursus et les piscines. Là, sachant que c'est que l'intérieur, évidemment, on a sur le terrain qui fait à peu près 2 hectares, on a toutes nos volières qui font entre 15 mètres pour les plus petites jusqu'à 70 mètres de long pour la rééducation des oiseaux, qui est hyper importante, qui est la phase la plus importante d'ailleurs, pour pouvoir les relâcher après par la suite.
Alors, lorsque nous avons fait le tour justement des volières extérieures, entre autres, vous avez expliqué que surtout les contacts donc avec les hommes doivent être réduits. Ils sont réduits au niveau des soins, ils sont réduits donc à l'alimentation. Il ne faut pas leur parler, par exemple, il faut éviter qu'ils s'habituent à la présence de l'homme. C'est difficile.
Oui, exactement. Mais pour certains bénévoles, effectivement, c'est pour ça qu'on préfère avertir avant que les personnes viennent sur la structure. C'est que voilà, ça reste des animaux sauvages, surtout quand c'est en période de jeûne, tout simplement, quand c'est les jeûnes au biberon, etc. Par exemple, dans la nurserie, c'est exclusivement odeur des nourrissages qu'on va rentrer dans la pièce. On ne parle pas lors du nourrissage, on fait le nourrissage et on sort de la pièce. Le but, c'est que les animaux n'assimilent pas l'homme, justement, à la nourriture ou autre, et qu'il n'y ait pas cette proximité qui va malheureusement du coup va être néfaste après par la suite quand ils seront relâchés. Donc le but, c'est vraiment que l'animal se débrouille tout seul, qu'il puisse retrouver son instinct totalement sauvage. Donc il faut vraiment se détacher de ça. Effectivement, certains bénévoles ont un peu plus de mal, mais dans tous les cas, malheureusement, c'est comme ça sur la structure. Donc on s'y fait dans tous les cas.
Alors, une dernière question avant de passer évidemment à l'intermède musical. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près combien d'animaux passent par votre centre ?
Alors, on est à peu près à 1100 animaux par an accueillis. Évidemment, si on compte tous les appels qu'on reçoit quotidiennement, et malheureusement ceux qui du coup sont pas pris en charge à temps et qui n'arrivent pas sur la structure, voilà, le nombre d'appels, etc., est beaucoup plus nombreux. Hein. Et en plus, malheureusement, c'est un constat qui se fait sur notre structure, mais qui se fait sur tous les centres de soins en France. Le nombre d'accueils augmente chaque année, mais vraiment de manière assez conséquente. Il y a encore 3-4 ans, on était à peu près à 700 animaux. Voilà, donc là, on a déjà dépassé 1100. On sait très bien que peut-être à la fin de cette année, on sera peut-être à 1200. Donc voilà, donc malheureusement, ça augmente chaque année assez fortement. Donc on ne sait pas trop ce que ça va donner après par la suite. Mais effectivement, la faune sauvage a besoin de ces structures-là.
Alors, on parlera dans une seconde émission, en fait, de la faune sauvage, parce que cette première émission est dédiée notamment aux activités du centre, et après, donc, le morceau musical que vous allez nous proposer, nous verrons, donc, quelle est l'évolution de ce centre, donc, dans l'avenir. Voici venir le moment de notre intermède musical. Vous avez fait un choix, Laura ?
Oui, on va passer sur du trio avec l'hymne de nos campagnes.
Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe.
Et les mâles vont faire la part des choses.
Il est grand temps
de faire une pause, troquer cette vie morose
contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos de la vie manne, du monde animal, crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Pas de boulot,
pas de diplôme,
partout la même
odeur de zone, plus rien n'agite tes neurones.
Pas même le shit que tu mets dans tes cônes.
Va voir ailleurs, rien ne te retient.
Va vite
faire quelque chose de tes mains.
Ne te retourne pas
si tu n'as rien.
Et sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi
près d'une rivière,
écoute le coulis de l'eau
sur la terre. Dis-toi qu'au bout,
et
il y a la mer,
et que ça n'a rien d'éphémère.
Tu comprendras alors que tu n'es rien comme celui avant toi, comme celui qui vient, que le liquide qui coule dans tes mains
te servira à vivre jusqu'à demain matin.
c'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien fort, use tes cordes vocales. Assieds-toi près d'un vieux chêne et qu'on parle à la race humaine, l'oxygène et l'ombre qu'il t'amène. Mérite-t-il les coups de hache qui le saignent? Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde. De tout son orgueil, sa maison est là, tu es sur le seuil. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Hey, crie-le bien fort, use tes cordes vocales.
Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes, tu as envie de rire. Et si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. Et j'aimerais pour tous les animaux que tu captes le message de mes mots. Car un lopin de terre, une tige de roseau,
servira à la croissance de tes marmots. Servira à la croissance de tes marmots. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Hey!
Alors, après ce petit intermède musical, nous allons revenir avec l'élan de C'est ma nature à cette interview de Laura Labarthe, qui est donc la référente du centre actuellement appelé Alcatorda et qui va évoluer, nous allons voir, dans cette seconde partie de l'émission. Alors, pour commencer déjà, on va faire votre connaissance, Laura, et vous allez nous expliquer votre parcours, celui qui vous a mené donc depuis vos études jusqu'à effectivement ce centre.
Alors effectivement, bon, j'ai un cursus un peu atypique, on va dire. Voilà, j'ai pas forcément fait d'études à proprement dit dans ce milieu-là. J'ai fait juste un bac pro, ce qu'on appelle vente en animalerie, TCVA, sur Mauléon dans le 64. Et du coup, à la suite de ce bac pro, moi j'étais déjà extrêmement passionnée par les oiseaux et principalement par les rapaces. Donc je voulais me lancer un peu dans la fauconnerie. Donc j'ai, à la suite de mon bac pro, fait du bénévolat sur la structure déjà à Alcatorda, donc voilà, je connaissais un peu le milieu des soins et j'ai enchaîné avec une formation justement de fauconnerie, donc qui était assez courte, hein, qui est pas diplômante mais qui est juste certifiante, qui permet d'avoir des connaissances et justement de l'expérience dans ce milieu là donc j'ai fait une saison de fauconnerie du coup dans un parc après par la suite, et du coup après j'ai enchaîné quand je suis revenue dans ma région le service civique ici sur la structure, et j'ai enchaîné un peu tous les contrats. Donc à l'époque il y avait des contrat aidé aussi pour les jeunes, donc j'ai eu la chance d'avoir ce type de contrat là et par la suite, donc moi j'étais vraiment engagée sur cette structure vraiment à fond, donc du coup j'ai passé ce qu'on appelle mon certificat de capacité pour pouvoir gérer une structure de cette envergure là pour pouvoir avoir l'autorisation justement de faire des soins et d'être responsable de la structure. Donc j'ai passé mon certificat de capacité en 2018 que j'ai eu, et donc du coup par la suite je suis passée capacitaire et responsable de la structure.
Ce qui vous amène, vous, à intervenir dans des tâches tout à fait différentes.
Oui, totalement. C'est vrai qu'en tant que capacitaire, évidemment, le capacitaire, c'est celui qui va détenir en fait la décision sur tous les protocoles de soins des animaux, donc tout le cursus, c'est-à-dire tout le développement, enfin tous les soins qu'on va apporter aux animaux, c'est le capacitaire qui va définir ce protocole-là en accord avec les vétérinaires quand il y a des traitements médicamenteux, etc. Mais toute l'évolution, la rééducation, etc. Tous les protocoles sanitaires, la gestion, effectivement aussi des bénévoles, tout ça évidemment c'est le gestionnaire de la structure, donc le capacitaire. Donc effectivement il y a plusieurs tâches, c'est les soins aux animaux, mais c'est aussi de la gestion associative, hein, on fonctionne pas sans les bénévoles. Là c'est vrai que je suis la capacitaire, il y a un autre salarié avec moi depuis très peu de temps sur justement la nouvelle association, mais après c'est que des services civiques, des jeunes et des bénévoles qui sont très importants, donc voilà.
Vous avez une responsabilité très importante puisque vous décidez, même avec un protocole, de ce qu'il faut faire quand un animal arrive.
Effectivement, c'est, voilà, c'est moi qui du coup vais mettre en place entièrement le protocole de soins de A à Z pour que l'animal puisse avoir toutes les chances de repartir dans la nature. Donc effectivement, c'est une lourde tâche. Il y a des décisions aussi à prendre malheureusement hein, sur la survie de certains, où c'est qu'on sait très bien qu'ils ne pourront pas s'en sortir. Donc il y a des décisions malheureusement assez tristes à prendre et qui sont parfois aussi quotidiennes puisqu'on reçoit à certaines périodes beaucoup d'animaux. Donc voilà, mais ça fait partie du jeu. On sait très bien que c'est aussi du bien-être animal de aussi les accompagner justement dans un départ un peu plus doux, on va dire.
Mmh. Y a-t-il des périodes qui sont plus lourdes que d'autres ?
Oui, effectivement, il y a des périodes, on va dire, plus intenses, en fait. Ça va être plutôt au printemps, quand on va recevoir beaucoup d'animaux. Hein, pour donner à peu près un chiffre, sur la période la plus intense, on va arriver à peut-être à 30-40 appels par jour. Et on peut, du coup, arriver à avoir facile une quinzaine, voire une vingtaine d'animaux par jour. Donc, c'est assez conséquent. Et du coup, c'est sur des horaires assez larges. Donc en fait, c'est vraiment la course un peu partout. On a besoin vraiment d'aide à ce moment-là, parce que, ben, justement, qui dit printemps, ça veut dire les jeunes, ça veut dire les biberons, souvent toutes les deux heures, donc assez tôt le matin, tard le soir. Donc c'est des journées sportives, mais bon, et on aime ça aussi, hein, la passion fait qu'on est là. Donc voilà, donc oui, c'est effectivement la plus grosse période pour nous, c'est le printemps-été. Mais dans tous les cas, on s'y plaît quand même dans ce genre de circonstances.
Alors justement, je dirais la diversité des tâches et tout ce que vous engagez comme moyens font que vous avez été amené à réfléchir à peut-être changer un petit peu la structure pour disposer de davantage de moyens. Je pense que le budget participatif du Conseil départemental des Landes vous a peut-être aidé un peu dans ce sens, puisque vous avez obtenu une aide très importante. Ça a été plébiscité visiblement par les Landais. Alors vous allez un petit peu nous parler d'abord de ce projet d'évolution d'Alcatorda.
Alors effectivement, du coup maintenant ça ne s'appellera plus Alcatorda. Alcatorda était vraiment le nom qui était donné à la structure, ce n'était pas une entité juridique, c'était vraiment le nom de la structure qui a été donné par la Fédération des Chasseurs des Landes, hein, qui est le propriétaire des lieux et le créateur d'ailleurs de la structure. Mais c'est vrai que voilà, vis-à-vis voilà, de tout le développement qu'on aimerait mettre en place et dans un souci aussi financier, le but c'est aussi de pouvoir développer la structure sur d'autres pôles, sur d'autres secteurs. On avait d'autres projets. Du coup, on a décidé avec effectivement la Fédération des Chasseurs, hein, c'est totalement en collaboration avec eux, d'ouvrir justement vraiment une entité juridique à part entière, qui à l'heure actuelle n'était pas le cas. Donc là, vraiment, il y a une association à part entière qui a été déposée, qui est ouverte, donc qui s'appelle Paloum, et qui donc du coup va reprendre l'entièreté de la structure du centre de soins. Donc la structure ne bougera pas, hein. Les missions sur le centre de soins seront toujours les mêmes, mais par contre on va essayer de développer la structure sur vraiment d'autres missions environnementales, essayer de se développer davantage pour essayer d'avoir une action vraiment plus large sur la protection de la faune sur notre territoire. Donc voilà, donc l'association est déposée depuis le 1er juillet déjà de cette année, et du coup elle a été annoncée là publiquement le 30 septembre, donc... J'espère qu'elle sera accueillie à bras ouverts par tout le monde.
Vous voulez bien nous parler des nouvelles missions qui sont très importantes, puisque c'est un petit peu le volet qui manquait, dans la mesure où ce centre n'est pas ouvert au public et que justement, vous avez besoin d'aller vers ce public.
Exactement. On a plusieurs missions du coup voilà qu'on aimerait mettre à l'œuvre sur cette nouvelle entité avec cette nouvelle association. Une grosse partie, ça va être de faire vraiment un gros pôle animation et sensibilisation qui est hyper important pour justement la préservation de la faune, de l'environnement, etc. Pour l'éducation des jeunes générations. Donc pouvoir faire justement se déplacer, étant donné que le site n'est pas ouvert au public. Donc nous déplacer, proposer des animations dans les écoles, lors d'événements, etc. Pour pouvoir éduquer, sensibiliser tout le monde à cette cause et du coup avoir les bons gestes tout simplement aussi, puisque malheureusement là c'est un constat sur la structure, on reçoit beaucoup d'animaux qui malheureusement voilà, n'auraient peut-être pas dû être ramassés, accueillis, voilà, donc ça c'est de la sensibilisation, c'est de l'éducation et c'est notre objectif aussi, parce qu'il faut commencer par la base, hein. Si on veut protéger les animaux, le but c'est pas tous de les récupérer, c'est d'éduquer tout le monde et que tout le monde ait les bons gestes aussi. Donc là c'est l'une des grosses missions qu'on aimerait mettre en place, du coup être vraiment beaucoup plus présent sur le secteur éducatif et sensibilisation. On aimerait aussi avoir pas mal un pôle peut-être formation, donc du coup pour le secteur on va dire un peu plus professionnel, donc le secteur environnemental, etc. Pour typiquement des agents de l'État qui pourraient vouloir se former sur la contention, sur la manipulation d'espèces particulières, dangereuses ou autres, ou tout simplement des professionnels, par exemple les ostéopathes animaliers, c'est déjà le cas, on a déjà des partenariats avec certaines écoles qui viennent du coup se former directement sur la structure, sur certaines espèces, et du coup apprendre vraiment la spécificité de la faune sauvage, puisque ça reste encore une spécificité pour certains cursus. Le cursus vétérinaire aussi, ça reste une spécificité, et ce n'est pas forcément appris sur les cours de base. Donc voilà, on aimerait être un pôle un peu plus là-dessus, formation justement pour tout ce genre de personnes qui sont vraiment dans le milieu professionnel. On prend aussi les entreprises par exemple qui vont être amenées à être au contact de la nature ou de l'environnement. On prend par exemple les entreprises d'élagage, peut-être voilà, si elles veulent avoir des informations, de la sensibilisation là-dessus, que voilà, ils vont tomber sur des situations peut-être peu communes, ils vont peut-être pas savoir comment réagir. Voilà, nous on sait qu'on est là, et c'est là aussi l'enjeu de la structure, c'est que voilà, on aidera dans tous les cas tout le monde sur à ce niveau-là. Une autre mission encore qu'on aimerait mettre en place aussi, c'est justement du coup de la recherche, donc essayer de faire un peu plus d'analyse sur les animaux, pouvoir faire un peu plus de veille sanitaire. Donc là, ça sera des budgets un peu plus conséquents qu'il va falloir aller chercher. Il faudra aller chercher des subventions et des aides un peu de tout le monde aussi, pour pouvoir justement faire des suivis sur la faune sauvage et sur toutes les espèces qu'on reçoit, donc faire des analyses plus régulières et faire de la veille sanitaire tout simplement. Et encore une autre mission, elles sont nombreuses, mais effectivement c'est la totalité, et c'est ce qui va englober justement toute la préservation qu'on aimerait mettre en place sur le territoire, c'est justement aller directement sur le terrain, donc faire des actions sur le terrain, donc soit de nettoyage, de plantation de haies, etc., qui vont du coup être utiles pour la préservation de la biodiversité au sens large du terme, parce que c'est vrai que soigner l'animal sur le centre de soins, c'est vraiment une très belle action, mais il faut aussi savoir voilà, qu'il faut vraiment s'occuper de l'environnement aussi par ailleurs à côté. L'animal, le relâcher si on ne soigne pas l'environnement à côté, voilà, ça n'a pas d'effet forcément positif, donc il faut vraiment être sur tous les fronts à ce niveau-là pour être sûr que notre action elle ait vraiment un réel impact.
Eh bien, je vous remercie beaucoup de toutes ces explications. Je pense que ça va passionner les auditeurs. D'ores et déjà, j'annonce que nous allons avoir une seconde émission, donc qui est dédiée aux animaux que vous recueillez et que vous soignez sur votre centre, actuellement Alcatorda, bientôt Paloum. Enfin, il est déjà ouvert, ce centre. Mais bon, je donne les deux noms. Il sera toujours à Puy-de-Sault, de toute façon. Pour l'instant, nous allons nous séparer pour une seconde émission qui aura lieu, donc, au cours du mois de novembre. Adi Schatz.
Adi Schatz, merci.
C'était Les Landes, c'est ma nature. L'environnement dans notre région, avec Jeanne-Marie et Marie-Claire.
Les Landes, c'est ma nature, un lundi sur deux de 15h à 15h30 sur MDM.